Bonjour tout le monde, un très bon vendredi ensoleillé, ça nous fait du bien cette température-là et c'est surtout la veille d'un long congé qui va se prolonger jusqu'à mardi matin. Je vous parlais pas des travaux là, qui vont peut-être vous empêcher de circuler dans la grande région de Montréal, on va rester positif, on va surtout essayer ce matin de vous informer beaucoup sur la situation à Montréal. D'entrée de jeu, je vous dis tout de suite que à 10h15, après la première pause, on aura la directrice de la santé publique de Montréal, la docteure Mylène Drouin, qui va faire le point avec nous sur la situation à Montréal. Mais avant, je vais vous demander, bien sûr, qu'est-ce que vous allez faire, vous, pendant l'Action de grâce. Ce long congé, vous allez l'occuper comment? Je vais vous demander si vous avez changé vos plans. En tout cas, quelqu'un qui a vraiment envie que vous alliez pas dans son coin. Puis si votre plan, c'était d'aller magasiner sur la rue principale à Saint-Sauveur, il aimerait ça que vous changiez votre plan. Mais c'est le maire de Saint-Sauveur, à qui on a parlé la semaine dernière, d'ailleurs. Une semaine, jour pour jour. Jacques Gariépy, bonjour.
Bonjour, Madame Maréchal.
Comment vous sentez-vous aujourd'hui, là, un autre congé et celui-là plus long que celui de la semaine dernière? La semaine dernière, vous avez vraiment prié nos auditeurs de rester tranquilles, rester chez eux. Puis la Sûreté du Québec vous a comme aidé un peu puisqu'ils ont mis sur pied là, des barrages. Est-ce que ça avait aidé un peu, ce Monsieur Gariépy?
Oui, ça a aidé. C'était quand même des barrages de sensibilisation, mais les gens ont été interceptés, interpellés à faire attention lorsqu'ils viennent à Saint-Sauveur, demander la provenance et le but de la visite à Saint-Sauveur. Et ils recommandaient de retrousser chemin si c'était pas un voyage ou un tour utile ou essentiel. Donc, oui, ça aide énormément. Ce qu'il n'y aura pas en fin de semaine, là, il n'y aura pas de barrage en sensibilisation. J'ai parlé à Sûreté du Québec ce matin même et ce qu'ils m'ont dit, ils avaient un petit peu changé leur stratégie pour les Laurentides, là, pour Saint-Sauveur. Ce qu'ils vont faire, ils vont avoir plus d'auto-patrouilles et une façon aléatoire, là, ils vont intercepter des gens des visiteurs sur la rue, des automobilistes et leur demander de provenance et leur demander d'être prudent. Puis c'est pas essentiel qu'ils soient là, ben de retourner puis de revenir un peu plus tard. Donc le travail se fait d'une façon différente, mais le travail va se faire.
Donc ce que vous me dites, c'est que la Sûreté du Québec va patrouiller dans les rues de Saint-Sauveur?
Oui, bien, va patrouiller en auto, là, possiblement, seulement qu'en auto, mais ils vont patrouiller là, dans les zones limitrophes à l'autoroute, aux sorties. Ils se mettront pas systématiquement dans les sorties parce qu'il faut penser, lorsqu'ils s'installent dans une sortie, s'il n'y a pas suffisamment d'agents et d'automobiles, ça crée tout de suite un bouchon. L'autoroute. Mm-hmm. Donc, faut que ça soit fluide et c'est pour ça qu'ils ont peut-être pas assez d'agents pour faire un barrage de sensibilisation, mais ils vont le faire autrement. Puis je pense que ça va avoir son effet quand même.
Vous êtes satisfait quand même de ça?
Oui.
Oui. Quelle est votre recommandation pour les gens qui nous écoutent là, pour ce week-end de l'Action de grâce?
C'est sûr que c'est toujours la même chose, hein. Puis les commentaires que j'ai des citoyens sont les mêmes. Ils sont inquiets. Parce que ici, il faut penser qu'à Saint-Sauveur, on n'a pas de cas actifs. On avait un ou deux les semaines passées, mais là, on n'a plus, on n'a pas du tout. Donc les gens sont très respectueux et ils suivent les consignes à la lettre. De telle sorte qu'on a eu des taux assez bons. Ce qu'on veut pas que ça se détériore, c'est avec l'arrivée des gens, puis la pression va être forte, hein, des gens de Montréal, toute la couronne d'or, puis même couronne nord, et de la région de l'Outaouais, là, qui a beaucoup de pression de ce côté-là également, que ces gens-là viennent à Saint-Sauveur, puis je les comprends parce que c'est beau à Saint-Sauveur. Puis, mais on leur demande s'ils ont à venir, on leur demande de pas venir, tu sais, naturellement, parce qu'on veut pas créer de gros bouchons puis de gros achalandages à Saint-Sauveur. Puis j'ai une pensée pour les restaurateurs puis les propriétaires de boutiques parce que eux, ils jouent leur survie actuellement. Là. Ils travaillent fort puis ils sont contents qu'on soit demeuré en zone orange parce qu'ils n'ont pas à fermer. Ils peuvent rester ouverts, mais avec la population de la MRC des Pays d'en haut, là, qui est 45 000 habitants, Saint-Sauveur, on est 11-12 000, donc on peut, si les gens veulent acheter local, puis encourager nos commerces, mais c'est le temps de le faire.
Oui, tout en respectant les mesures sanitaires, parce que vous ne voulez pas qu'il y ait des débordements de gens, là, une horde de touristes qui viennent puis qui soient paquetés, là, qui soient trop proches. La distanciation, ça reste quand même un enjeu dans ces coins-là, là. Surtout sur la rue principale à Saint-Sauveur.
C'est l'enjeu.
On est quand même pas mal collés, là.
Oui, mais c'est l'enjeu principal. C'est pour ça qu'on a fait les aménagements, ces aménagements-là vont rester jusqu'à la fin d'octobre. Là, on va enlever ça le 2 novembre, là, parce que les neiges vont arriver aussi par la suite. Mais nos aménagements ont permis de doubler la superficie piétonne, qui a fait que la distanciation sociale était plus facile à respecter que si on avait une rue comme habituelle. Donc, avec les l'embauche d'agents de sécurité, là, on a toujours entre 5 et 10 agents de sécurité qui sillonnent la rue principale et les rues limitrophes là, constamment. Puis ça a son effet. Puis ces gens-là, ce qu'ils ont comme recommandation, comme mission, bien, c'est ils veulent faire respecter la distanciation, le port du masque lorsque les gens sont trop près, puis ils rentrent dans les magasins, boutiques et restos, faut qu'ils aient leur masque, puis c'est relativement bien respecté. Puis je demande encore à ceux qui ont ceux qui veulent venir absolument à Saint-Sauveur, je leur demande de s'abstenir, mais si ceux qui veulent absolument venir, ben d'être respectueux puis de suivre les consignes au même titre que nous, résidents, on a suivi ces consignes-là. Donc, soyez prudents, soyez respectueux et écoutez les recommandations de nos agents de sécurité.
Voilà, c'est quand même un message, bon, un peu, je comprends, vous êtes un peu pris entre l'arbre et l'Écosse comme maire d'une municipalité qui vit beaucoup du tourisme, M. Gariépy. En même temps, bon, vous devez aussi aller dans le sens des recommandations. Il y a la crainte de vos citoyens, mais il y a le désir de vos commerçants de fonctionner pareil puis d'essayer de se relever un peu. C'est quand même. Puis la semaine dernière, vous l'avez dit aux gens, venez donc pas. Là, cette semaine, vous le dites encore, venez pas. La semaine passée, ils n'ont comme pas écouté. Ils sont allés pareil, là, visiblement.
Bien, la semaine passée, c'était un petit peu moins achalandé que de deux semaines, là. Mais c'est sûr qu'en fin de semaine, demain, il annonce 22, 23 degrés, là, tu sais. Puis les gens, c'est naturel qu'ils ont le goût de sortir, tu sais, mais je leur demande de rester chez eux. C'est ça que les recommandations du premier ministre, puis j'abonde dans le même sens, là, faut être discipliné pour quelques semaines, essayer de casser cette vague-là, là, si on peut la casser, puis je pense que oui. Mais c'est avec les sacrifices qu'on va faire. Puis même les commerçants puis les restos nous le disent, là, ils veulent pas nécessairement des gens d'en dehors qui viennent dans le restaurant. Là, les autres, ils peuvent se contenter du local, puis le local, on encourage nos commerces. Donc, même si les gens d'en dehors ne viennent pas pour l'instant, nos commerces n'en souffriront peut-être pas nécessairement. Là.
Fait que vous aimeriez bien que les gens de Montréal écoutent.
Ben écoute, c'est parce que si on tourne au rouge, ce qu'on veut pas, c'est de tourner au rouge. Si on tourne au rouge, ben là, ça va être la fermeture totale, puis il n'y a personne qui veut ça.
Trouvez-vous qu'ils écoutent pas fort?
Ben écoutez, ils écoutent pas fort. On n'a pas l'autorité, puis on peut pas légiférer pour mettre des barrages. Si on l'avait, peut-être qu'on recommanderait fortement d'en mettre des barrages pour empêcher les gens de rentrer à Saint-Sauveur, mais on l'a pas. Puis même si on ne l'a pas, je demande aux gens de s'abstenir puis de venir une autre fois. De toute façon, les couleurs sont moins belles qu'elles étaient. Là. C'est encore beau, mais le beau des couleurs est passé.
Merci beaucoup, Jacques Gariépy, maire de Saint-Sauveur. Allez pas là à Saint-Sauveur. Là. C'est moins beau que la semaine passée, qui nous dit le maire de Saint-Sauveur. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici. Nos numéros pour nous joindre, 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Est-ce que vous allez changer vos plans pour l'Action de grâce? Vous pouvez nous joindre tout au cours de cette prochaine heure. Tout de suite après la pause, je reçois la docteure Mylène Drouin, qui est directrice de la santé publique de Montréal. On va faire le point sur la situation puis pour les jours qui s'en viennent. À tout de suite, tout le monde. Feu faisons le point sur la situation à Montréal avec la directrice de la santé publique de Montréal, Dr Mylène Drouin. Bonjour, Dr Drouin.
Oui, bonjour.
Quelle est la situation ce matin?
Bien, la situation est quand même au beau fixe. Là, je dirais, depuis le début de la semaine, on a autour, là, entre dans les derniers 24 heures, on avait 345 cas, mais c'est autour de entre 250 et 350. Donc, par rapport à la semaine dernière, on a quand même là une stabilisation. Donc, on n'est pas dans une croissance comme on l'a vu au cours des 3-4 dernières semaines. Mais évidemment, je peux pas crier victoire là rapidement comme ça. Il faut qu'on voit comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines, puis de voir si les efforts qu'on fait collectivement vont vraiment nous amener à couper cette courbe-là ou à aplanir la courbe-là.
Est-ce qu'on serait donc au début de quelque chose qui ressemblerait à un plateau pour Montréal?
On l'observe, mais c'est trop tôt pour moi là pour être capable de vous le dire là. C'est que quelques jours là devant nous là qu'on a de chiffres qui sont plus stables. Faut toujours regarder aussi qu'est-ce qui est en attente dans nos laboratoires. On le sait que dans les laboratoires là, il y a quand même là des délais aussi là, donc certains délais. Donc on les calcule là, dans nos chiffres, mais c'est trop tôt là pour être capable de se prononcer. Puis je pense que le message à la population, c'est qu'il faut vraiment maintenir les efforts qu'on a commencé à faire pour être capable là, d'aplanir la courbe là, dans les 28 jours, dans ce défi 28 jours qu'on s'est donné.
Ça vous prend combien de jours de stabilisation des cas pour considérer qu'on est effectivement, qu'on a atteint le plateau?
Bien, on va quand même regarder là, sur une période de 2 semaines. T'sais, dans le fond, on s'attend à ce qu'on voit actuellement, c'est le reflet d'une transmission qui s'est faite il y a 2 semaines. Donc, ce qu'on commence à voir, c'est quand on est passé en zone orange, déjà, on a fait un rehaussement des messages à la population. Et là, ce qu'on constate, c'est un petit peu les comportements des gens et de la transmission qui avait lieu il y a 2 semaines. Donc, d'ici une semaine ou deux, on va voir un petit peu l'effet du passage en zone rouge sur nos chiffres. Mais évidemment, cette stabilisation-là doit durer plusieurs semaines pour qu'on soit capable là, de vraiment dégager une conclusion qui ferme. Là.
OK, plusieurs semaines. Donc, c'est long.
Quand même,
là.
Bon, ouais. Ben oui, quand même, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans. On est capable d'affirmer qu'on est sur la bonne voie, mais on veut vraiment avoir quand même sur une semaine ou deux, là, au moins 2 semaines, là, une tendance assez marquée. Là.
OK, fait que si je rajoute 2 semaines à la date.
Le 28 jours est là pour ça. C'est ouais. Exactement ça. On s'attend à avoir un impact des mesures qui commence dans les deux premières. Après 2 semaines d'application, puis après ça, on regarde sur les 2 autres semaines si cette tendance-là demeure et est vraiment concluante. Là.
Donc, d'après vous, ça risque de dépasser le 28 jours?
Bien, comme je le disais dans mon point de presse, je pense que probablement que oui, ça risque de dépasser le 28 jours, mais je pense qu'il faut qu'on arrive collectivement à prendre conscience qu'on va vivre avec ce virus-là pendant encore beaucoup de mois. Est-ce que ça va être les mêmes mesures qui vont être appliquées après le 28 jours ou dans un mois d'ici ou un mois et demi? Je ne sais pas. Mais clairement, on va peut-être avoir des mesures rehaussées qui vont s'appliquer après ça pour plus longtemps pour peut-être éviter de faire toujours ce yo-yo-là de « OK, on déconfine et on retrouve une quasi-normalité, puis là, quelques mois après, oups, on remet des mesures plus drastiques en place. » Donc, probablement qu'on va essayer de trouver un niveau de mesure qui va nous permettre là, de oui, il va y avoir de la transmission, mais de bien la contrôler.
Et dans cette réflexion-là, on nous vante beaucoup et de plus en plus les mérites d'un prochain vaccin. Est-ce que vous croyez, autant qu'on le dit, au mérite de ce vaccin, là, qu'on dit, bon, dès qu'on va avoir le vaccin, c'est comme si on pense qu'on va tout régler. On sait que les vaccins qui existent sur le marché pour la grippe, entre autres, ne règlent pas les questions de mortalité qui sont chaque année liées à la grippe. Donc, est-ce que le vaccin va être si miraculeux que ça, Dr Drouin?
Bien, clairement, quand il y a un ou plusieurs vaccins qui vont être mis à la disposition, ça va nous donner un petit peu d'espoir et de lumière là, au bout de tout ce qu'on vit. Mais je pense que le vaccin, la journée qui va arriver, probablement qu'on va avoir des doses limitées, fait qu'on va devoir prioriser les groupes les plus vulnérables. Et ça va quand même prendre plusieurs mois avant d'être capable là, d'avoir une couverture qui est satisfaisante pour penser à avoir une immunité collective. Puis là, il faudra voir aussi l'efficacité de ces vaccins-là, la durée de l'immunité qu'ils confèrent. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. Mais clairement, à chaque fois qu'on entend parler des avancées, pour nous, c'est une lueur d'espoir. Et ça va faire partie, dans le fond, de l'arsenal des mesures. Mais c'est probablement qu'on ne pourra pas rebaisser là, à un niveau de déconfinement total. Et je pense qu'il y a des mesures de base populationnelles qui vont devoir être maintenues encore, même avec l'arrivée du vaccin, encore quelques mois. Là.
Ouais. Vous parliez tout à l'heure du message, de l'importance là, du message toujours. Puis bon, là, il y a un long congé qui s'en vient. On vient d'entendre le maire de Saint-Sauveur, Jacques Garrier-Puy, qui essaie de nous dire que les feuilles sont plus belles dans le coin à Saint-Sauveur, dans les Laurentides. Alors, les touristes de Montréal, allez-y pas. Qu'est-ce que vous recommandez aux Montréalais de faire en fin de semaine, Dr Drouin?
Bien, c'est sûr que moi, je recommande aux Montréalais là, de profiter de la vie en famille, de nos parcs et des parcs qui sont dans la CMM, donc dans la région rouge prioritairement. C'est sûr qu'il n'y a pas d'interdiction formelle là, et d'aller, par exemple, à son chalet, mais si les gens le font, je pense que ce qui est interdit en zone rouge, on devrait pas le faire ailleurs, donc on devrait pas aller au restaurant. On ne devrait pas faire un souper avec nos voisins, évidemment. Amenez votre épicerie si vous allez à votre chalet pour éviter d'aller dans les commerces dans cette zone-là. Mais je pense que idéalement, moi, je recommanderais vraiment à ce que la population demeure dans la région dans la région de la CMM qui est rouge là.
Oui, mais disons qu'un Montréalais, un couple de Montréalais veut réserver dans un restaurant d'une zone orange. Ont-ils le droit de faire ça?
Ben, je pense qu'actuellement, c'est pas dans le décret d'avoir une interdiction d'aller de passer d'une zone rouge à orange. Donc, les gens ne seront pas arrêtés par la police. Mais c'est clairement pas recommandé là, de réserver. De là à dire, est-ce que les policiers pourraient donner une amende? Tu sais, le droit, ça veut dire qu'il y a quand même toujours soit une amende ou quelque chose. Ça, je pense pas que ça fait partie des décrets actuellement. Mais on ne le recommande pas, évidemment, là, aux gens d'aller dans des restaurants ou d'aller dans des commerces dans des zones qui sont soit jaunes ou oranges alors que il arrive d'une zone rouge.
Mais c'est ça le problème, c'est parce qu'à force de pas recommander, c'est clair qu'on le recommande pas là. Mais est-ce qu'on le dit clairement? Il faudrait peut-être le dire plus clairement. Normalement, c'est non.
Exactement, c'est non. Ouais. On ne va pas on ne fait pas dans une autre zone qui n'est pas la même couleur des activités qui sont proscrites dans la zone dans laquelle on habite. Donc, on devrait pas faire d'épicerie, pas faire de restaurant, aller prendre un verre ou etc. Là, dans des zones où les commerces sont encore ouverts.
Est-ce que les Montréalais peuvent s'inviter entre eux? Dans les zones rouges, on peut-tu quand même se recevoir?
Non, pas du tout. Ça, les rassemblements, évidemment, sont proscrits depuis le début qu'on est en zone rouge. Donc, on se limite à notre bulle familiale, domiciliaire. Évidemment, les gens qui...
Il y en a qui ont la bulle large, par exemple.
Oui, c'est clairement proscrit. Et c'est ça que c'est comme ça qu'on va voir l'efficacité des mesures dans 2 semaines. Là, après les 2 semaines du niveau rouge, là, si les gens l'appliquent bien, clairement, on va voir un taux de reproduction qui va s'abaisser et ça va se refléter dans l'ensemble de nos chiffres.
Ouais.
Mais pour l'instant, clairement, ce qu'on demande, c'est de se limiter à sa bulle familiale ou les colocataires avec lesquels vous habitez.
La bulle familiale, c'est vraiment les gens avec qui on vit.
On habite sous le même toit. Voilà. Exactement.
La deuxième vague, vous la considérez plus difficile que la première, Dr Drouin. Hier, le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, là, on l'a vu très émotif. Il dit avant, les gens nous écoutaient. Fait, clairement, il y a l'impression que là, son message passe plus. Il dit qu'il reçoit des menaces de mort. Avez-vous l'impression que vous prêchez dans le désert désormais?
Bien, clairement, je dirais que la deuxième vague, on est mieux préparé dans nos fonctions de santé publique, au niveau du dépistage, dans la préparation des résidences de personnes âgées. Tout ça, malgré qu'on a des zones encore fragiles, il y a clairement une meilleure préparation. On sait où on va. Nos recommandations sont claires là, dans nos actions. Là où, je dirais, notre angle mort, c'est vraiment l'engagement de la population. C'est d'avoir la population derrière nous pour nous aider autant à appliquer les mesures de santé publique, les mesures qui sont prônées pour Monsieur Tout-le-Monde, que lorsqu'on est dans de la gestion des cas et des éclosions, donc répondre au téléphone, participer aux enquêtes, s'assurer que les mesures sont bien appliquées, c'est là qu'on, je pense, que c'est le grand défi de la deuxième vague qu'on vit actuellement. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec nos milieux, que ce soit le milieu scolaire, les garderies, les milieux de travail, et les communautés, certaines communautés qui sont plus touchées par la deuxième vague. On travaille avec eux pour qu'eux nous aident aussi à mettre en place les mesures et à devenir des agents multiplicateurs. Parce que oui, tout à fait, Dr Arruda a raison, notre message porte beaucoup moins là, qu'à la première vague.
Et c'est un sujet d'inquiétude pour vous, ça? Est-ce que vous dites des fois, voyons, le monde, qu'est-ce qu'ils comprennent pas quand je leur parle? Est-ce que vous avez certaines frustrations à un moment donné? Moi, j'en aurais, docteur Drouin. Je vous écoute régulièrement, puis je me dis, bon, ben ça doit être difficile à un moment donné quand tu as l'impression que quand tu parles, les gens font fi de tes recommandations de santé publique.
Oui, mais je pense qu'il faut se poser la question du pourquoi les gens font fi. Est-ce qu'il y a eu une perte de confiance? Est-ce que c'est dans des éléments de cohérence? Est-ce qu'on les a suffisamment engagés dans la lutte à la pandémie? Est-ce que ça fait sens pour eux, ce qu'on fait actuellement? Puis comment, tu sais, je pense que quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, faut aller se poser le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi pour essayer de voir comment on peut amener la population à reprendre le pouvoir de la gestion de la pandémie.
C'est toutes des bonnes questions que vous posez, mais avez-vous les réponses?
On y travaille, je peux vous dire, on y travaille avec beaucoup de communautés. On le travaille beaucoup à travers, comme je le disais, la gestion des cas et des éclosions, où on essaie d'engager les groupes concernés. Tu sais, je vais vous donner un exemple de ce qu'on fait avec toutes les dirigeants des centres de la petite enfance pour être capable de leur expliquer c'est quoi les portraits des éclosions, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis c'est quoi les trois gestes les plus importants à mettre dans chacune de leurs garderies, etc. Donc, on le travaille beaucoup sous l'angle de redonner aux gens qui ont les leviers le pouvoir de gérer la transmission dans leur milieu.
Mais voyez-vous, Dr Drouin, là, nos lignes sont pleines, on va donner la parole aux gens, puis je peux déjà vous dire, Normand Jay, mon recherchiste, leur parle aux auditeurs, puis il y en a beaucoup qui appellent en disant « Hey, garde, je m'empêcherai pas d'aller en Estrie si ça me tente. En plus, les décès, il y en a plus tant que ça. Ceux qui avaient à mourir sont ceux qui meurent. » C'est là où on en est là, en ce moment, Dr Drouin.
Bien, il y a probablement aussi beaucoup de désinformation parce que des décès, il y en a encore, puis il y en a quand même, on le voit là, il y en a chaque semaine qui s'accumule. Et nous, cette semaine, on a clairement vu aussi tranquillement la proportion du groupe plus âgé, la proportion des cas chez les groupes plus âgés qui est en train d'augmenter, qui nous inquiète aussi. On voit qu'on recommence, malgré qu'on a préparé toutes les résidences de personnes âgées pendant l'été, on recommence à avoir des éclosions dans ces résidences-là. Clairement, il y a quelque chose qui se passe, malgré le fait que ça touche les plus jeunes, puis effectivement, qui sont moins touchés en termes de symptômes puis de formes sévères. On a ouvert une petite brèche pour que ça se transmette dans des groupes qui vont avoir une forme plus sévère de la maladie puis qui peuvent avoir des complications, là.
Ouais, mais ça, voyez-vous, ça touche plus le monde, là. Il va falloir changer la façon dont le docteur Arruda, vous-même, enfin, les directions de santé publique un peu partout au Québec, là, parce que le Québec, il y a tellement d'autres secteurs qui passent au niveau d'alerte rouge, là, maintenant. La MRC de Portneuf, la capitale nationale, toute la Mauricie, centre du Québec, là, toute la vallée du Saint-Laurent, d'après ce qu'on comprend, est virée rouge. Là, ça fait quand même pas mal de Québécois. Là, j'ai plus grand monde qui est pas touché par ça. Et pourtant, il y a encore des gens qui disent « Regarde, je vais faire ce que j'ai à faire. » Puis c'est ça qui est ça, là.
Oui, bien là, j'ai pas le contrôle sur le comportement de chaque individu, mais oui, évidemment...
Mais c'est pas parce que vous l'avez pas dit, là, pourtant. Là. Fait que c'est clairement un message qui ne passe plus.
Bien, je pense qu'il y a quand même nous, on a certains sondages là, qu'on suit sur l'adoption ou l'adhésion à certaines recommandations. On a quand même une bonne partie de la population qui l'applique, là, qui applique bien les recommandations. Mais clairement, le relâchement qu'on a connu pendant l'été, lié au déconfinement, lié au fait aussi qu'on avait des taux très faibles cet été, donc cette perception que le virus n'existe plus. Et après ça, ça a touché des jeunes qui étaient très peu symptomatiques. Donc, il y a quand même ce fond-là qui fait en sorte qu'il y a encore un courant où on pense que c'est une infection bénigne, que finalement, il faut arriver à vivre avec, puis que ça touche pas tant que ça les aînés, puis que mais nos chiffres nous démontrent et on le voit là qu'on augmente notre nombre d'hospitalisations de jour en jour, nos gens aux soins intensifs aussi ça augmente. Donc clairement la vague qu'on vit actuellement peut avoir des répercussions importantes là chez les plus vulnérables. Puis ouais. Si on le fait pas pour nous, faisons-le pour notre oncle, notre tante, nos grands-parents qui eux peuvent être touchés puis avoir des complications importantes.
Mais qu'est-ce que vous dites à Christian qui m'écrit « Oui, je vais écouter les consignes, mais il n'y aura personne qui va m'empêcher de voir mes enfants. » Ça, je vous le garantis. Désolée.
De voir ses enfants, ses petits-enfants, ben, je veux dire, c'est sûr que moi, la police va probablement pas l'en empêcher, mais c'est une prise de risque que si collectivement tout le monde a ce comportement-là, de dire, mais moi, je veux pas m'empêcher de voir mes petits-enfants, puis je veux pas m'empêcher de partager un repas, puis de partager la trempette, etc., puis que le petit-enfant ait peut-être un contact d'un cas à l'école, ben, si tout le monde a ce comportement-là, ben, vaut mieux se dire que dans 28 jours, on n'atteindra pas notre objectif. Là.
Tout le monde fait ça, je peux même dire qu'on va déballer nos cadeaux de Noël tout seul, je pense.
Exactement. Hein? Fait, tu sais, je pense qu'il y a aussi cette perspective-là de comment je trouve... quelle prise de risque... Les prises de risque que je prends individuellement, si je le regarde juste dans un contexte de moi, mon moi, peut-être que je trouve pas ça si mal, mais collectivement, ben, c'est des commerces qui sont fermés actuellement, c'est des gens qui vont perdre leur emploi, puis ça, je pense qu'on a tous une responsabilité collective à être solidaires face à ces mesures-là, puis j'invite tout le monde à être des agents multiplicateurs. Si le monsieur en question dit « Moi, personne ne va m'empêcher de voir mes petits-enfants », ben j'espère que les petits-enfants puis que les parents de ces petits-enfants-là vont dire « Non, désolé, je veux pas, j'ai pas le goût de te mettre à risque, puis j'ai pas le goût, moi, d'être encore, j'ai hâte d'aller, de retourner au restaurant, j'ai hâte de retourner au cinéma, au théâtre, puis de voir mes artistes se performer. Mmh. Donc, je pense que c'est aussi tout un système où on a tous un rôle à jouer, d'être un agent multiplicateur puis de renforcer ces mesures-là s'il y en a qui face à des gens qui ne veulent pas. Là.
Un dernier point avant de vous laisser aller, parce que là, les chiffres de l'Ontario viennent tout juste de sortir. Le premier ministre Doug Ford, ben, je vais vous l'annoncer avec grand plaisir, Dr. Drouin. Le premier ministre Doug Ford a convoqué une réunion d'urgence là, ce matin de son cabinet là, parce qu'il veut discuter de restrictions supplémentaires pour les zones chaudes de Toronto, d'Ottawa, la région de Peel, mais surtout Toronto, où là, il y a 336 nouveaux cas aujourd'hui. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y en a 345 à Montréal. Donc, il y en a plus à Montréal encore, qui est à la rigueur une plus petite ville que Toronto. Puis là, Toronto branle-bas de combat. Fait que, qu'est-ce qu'on devrait faire, nous?
Ben nous, je pense que le branle-bas de combat, on l'a fait la semaine passée, là. Donc, depuis deux semaines, il y a quand même plusieurs mesures qui se sont ajoutées. Mais clairement, oui, on le voit que le Québec a une accélération plus rapide. Est-ce que c'est lié à des mesures qu'on a prises dans le déconfinement de cet été ou dans la réouverture des écoles?
Des mesures prises trop tard, finalement.
Ben soit trop tard ou un déconfinement, il y a probablement des facteurs là, puis là, ça va nécessiter des analyses là plus rigoureuses pour faire ces comparaisons. Mais oui, il y a quelque chose qui est différent dans le portrait, mais globalement on augmente les deux provinces sont dans une tendance à la hausse et une tendance inquiétante, donc on se doit tous de resserrer certaines mesures là.
Je vous remercie infiniment d'avoir pris ce temps pour nous parler, la docteure Mylène Drouin, directrice de la Santé publique de Montréal qui faisait le point donc sur la situation. On s'arrête ici. Très courte pause. Je reviens avec vos commentaires au 514-790-9850. Dans la région de Montréal, vous faites le 1-866-790-9850. Dites-moi si vous avez, à la lumière de tout ce qu'on a dit, maire de Saint-Sauveur qui veut pas vous voir la face, surtout si vous venez d'une zone rouge. Et puis la docteur Drouin qui dit là, à un moment donné, arrête de penser à ton petit bonheur tranquille. Faut être solidaire tous. Qu'est-ce que vous allez faire en fin de semaine? Allez-vous changer vos plans? On vous écoute tout de suite après. Alors, à la lumière de tout ce qui vient d'être dit, puis on va avoir le maire de Bromont dans quelques minutes, est-ce que vous avez l'intention de changer vos plans pour l'Action de grâce? Je commence avec vous, Stéphane. Bonjour.
Bonjour, Isabelle.
On vous écoute?
Écoute, moi...
Oui,
je fais attention, je porte mon masque. Garde, oui, je vais. Si je vais aller à Swan Estrie ou à Saint-Sauveur, garde, je m'empêcherai pas d'y aller. De toute façon, je vais être avec ma copine et puis on va aller soit se promener en forêt ou soit se promener en campagne. Je m'en irai pas faire mon épicerie ou mon ou peu importe là au centre d'achat magasiner. Je m'en vais me promener, profiter du beau temps. Mm-hmm. Avant que l'hiver arrive, et c'est tout. On va pas contaminer 1 million de personnes. Je vais être seul dans l'auto avec la copine ou dans le bois, en sentier ou quelque chose comme ça.
OK, vous n'allez pas aller magasiner sa rue principale à Saint-Sauveur.
Ah, non. C'est sûr, si je veux manger un petit quelque chose, il y a une petite cantine du coin, je vais aller manger un petit quelque chose, mais je passe pas la semaine-là ou la fin de semaine-là. Là.
Mm-hmm. OK, parfait. Merci, Stéphane. Ouais. On a Dominique qui nous écoute. Bonjour, Dominique.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien, et vous?
Oui, ça va pas pire. Écoute, moi, pour mes plans, pour répondre à ta question, les plans en fin de semaine ne changeront pas dans le sens que je vais rester à la maison, on va suivre les recommandations. Puis j'en profite en même temps pour... écoute, je trouve ça aberrant un petit peu de voir les gens comment ils peuvent être incrédules face à ce virus-là. Moi, je suis paramédic, je travaille aussi comme infirmier dans un hôpital de la Rive-Sud. J'invite les gens qui pensent que ça n'existe pas juste de venir passer un quart de travail avec moi ou juste de passer une semaine de travail avec moi, puis on est obligé de se faire dépister continuellement pour être sûr de ne pas amener le virus. Puis d'un autre côté, on a nos enfants, la petite fille de 6 ans qui n'est pas capable d'aller faire du vélo avec ses amis à l'extérieur. Je ne peux pas concevoir que les gens sont égoïstes à ce point-là. Mais je commence à croire que c'est l'image de la population puis de la société québécoise. On est des purs égoïstes. On pense à nous-mêmes. On pense à ce qui nous satisfait à nous autres. Puis le reste, ben
Mais Dominique, en même temps, voyez-vous, je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas certaines choses parce que des fois les messages nous paraissent bizarrement présentés. Geneviève m'écrit à l'instant, il faudrait qu'on m'explique comment ça se fait que nos enfants vont à l'école, mais qu'on peut pas se voir en famille. Comment ça se fait que, et puis c'est pas faux, l'enfant qui va à l'école, mais dont la grand-mère peut plus lui rendre visite. Les gens se demandent, ben voyons donc, c'est où la logique? Vous dites quoi, vous, là-dessus, Dominique?
Ben, moi, ce que je vous dirais, c'est que je suis le premier à pas comprendre toutes les mesures, dans le sens qu'il y a des choses qui, à mon avis, à moi, sont égocentriques, on est trop vers l'excès. Mm-hmm. Mais dans la situation qu'on est aujourd'hui, là, le questionnement de savoir si on est dans l'excès, puis on comprend pas. On a le droit de pas comprendre, on a le droit de demander des explications. Par contre, ça ne nous empêche pas de suivre les recommandations tout de même.
Ouais.
Je pense que c'est pour le bien-être de tout le monde.
Voilà.
Des questionnements, c'est la preuve qu'on est intelligent. Si on n'aurait pas de questionnements, ben on serait des idiots. Puis écoutez, on irait tous se tirer dans le mur aussitôt que quelqu'un nous le dirait. J'ose espérer qu'on n'est pas comme ça. J'ose espérer ça.
D'accord. Ben merci, Dominique. On va tout de suite passer au maire de Bromont. Louis Villeneuve est avec nous. Bonjour, monsieur le maire. Comment ça va se passer en fin de semaine chez vous? Parce qu'on a entendu le maire de Saint-Sauveur tout à l'heure qui veut pas voir des gens de zone rouge. Dans votre coin, vous?
Ben, écoutez, d'abord, bonjour, Mme Maréchal. J'ai hâte qu'on se parle de d'autres choses. À Bromont, il va encore y avoir des barrages policiers pour sensibiliser les gens. Ben, je dis bien sensibiliser les gens. Puis, j'écoute vos intervenants depuis tantôt, puis j'ai l'impression que je vais radoter et répéter les mêmes choses, mais le gouvernement du Québec demande, nous donne des directives. Je suis d'accord avec votre dernier intervenant qui disait, oui, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des opinions différentes, mais là, pour l'instant, on parlait de 28 jours, il en reste 21, on nous demande de respecter des règles. C'est pas la mort d'un homme, comme dirait ma mère. On se doit de le faire. Maintenant...
Oui, mais on est encore en train de recommander.
C'est oui, peut-être ben c'est justement là que je vais aller, Mme Maréchal.
Okay.
On dit, on vous demande On vous recommande d'éviter d'aller de voyager interrégion. On nous dit pas c'est interdit. Donc, ça fait quoi? Moi, si je suis quelqu'un qui veut pas suivre les règles, qui veut, ben je vais dire, ben c'est pas interdit, fait que j'y vais. Hein? Et ça nous aide pas non plus dans les municipalités parce qu'il y a comme il y a de l'ambiguïté, il y a comme un flou là. Mm-hmm. Et ben on dépendamment de quel côté on est, ben on prend le chemin qui fait le plus notre affaire. Donc,
comment on arrête cette ambiguïté? Est-ce qu'il faut...
Je pense qu'il faudrait que les règles soient claires. Donc, si on ne veut pas que les gens voyagent interrégion, nommons-le, interdisons-le. C'est tout. C'est interdit. Alors, tant que c'est pas interdit, j'ai le choix. J'y vais ou j'y vais pas.
Est-ce que c'est une demande officielle que vous faites au gouvernement?
Demande officielle. Tu sais, je suis pas dans à la place de M. Legault. Je voudrais pas être à sa place non plus. Ça doit pas être simple. Mais je pense qu'il faut arrêter d'être ambigu. Alors, on pourrait dire, je sais pas moi, on défend de voyager interrégion, sauf pour tel cas. Tu sais, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui doivent voyager. Mais là, on parle de 21 jours, Mme Maréchal. Là. On n'est pas en train de dire que c'est pour la vie. Là.
Exact.
Donc, oui, ça peut, c'est un sacrifice. Oui, c'est emmerdant, nommons-le. Mais pour 21 jours, est-ce qu'on va changer la chanson Noël blanc pour Noël seul? Parce que c'est là qu'on va aller si on devient tous rouges. Ici, à Bromont, on est encore en zone orange. Donc, nos restaurants sont ouverts, nos commerces sont tous ouverts. On a une population de 10 000 habitants. D'ailleurs, je les invite à encourager leur commerce encore. On le fait déjà, mais on va le faire encore plus pour s'assurer que nos commerces vivent bien. Puis ça, pour 21 jours. Alors oui, il y a des gens qui vont...
Vous voulez pas du monde des zones rouges, donc, vous, chez vous?
Ben non, on veut pas plus des gens des zones rouges. Puis là, c'est pas... Puis là, il faut toujours faire attention. Moi, c'est bien, le maire de Bromont, je ne veux pas voir personne. C'est pas vrai. On est une ville touristique. On aime les gens. On aime les touristes.
Mais comme maire de Bromont, juste parce que le temps file, comme maire de Bromont, avez-vous les moyens de dire à votre corps policier, là, bon, regardez, le monde qui s'en vient de Montréal ou des zones rouges, vous m'arrêtez ça, vous les
virez de bord. Non, on n'a pas ce pouvoir-là. Les policiers peuvent intervenir pour faire de la sensibilisation. Ils peuvent intervenir si ils s'aperçoivent ou soit il y a de la dénonciation, whatever, que des gens des zones rouges sont dans des restaurants, par exemple. Là, ils peuvent intervenir parce que les gens des autres zones doivent respecter leur code de couleur, là, on va dire comme ça, à l'extérieur.
Bon, ben écoutez, on va espérer que ça soit un week-end où les gens vont suivre les règles. Merci beaucoup, Louis Villeneuve, maire de Bromont. Il faut absolument mettre des règles beaucoup plus claires. Le maire de Bromont, il a raison. L'ambiguïté, c'est mauvais, c'est pas bon. Ça fait en sorte que les gens écoutent pas, que le message ne passe plus. Il faut des règles plus claires. Par exemple, c'est simple. On va à la pause là-dessus. Alors, allez-vous changer vos plans pour l'Action de grâce pour ce long week-end? Dominique, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute?
Oui, bien, en fait, moi, je ne changerai pas mes plans. Et je peux comprendre que les gens sont vraiment en questionnement vers des gouvernements, comment ça, je peux pas visiter ma famille, si ça. Je vais vous donner un exemple. Mm-hmm. Mon beau-frère, c'est le professeur de ma fille en cinquième année, et j'ai une fille en sixième année à la même école. Présentement, je suis à la CSST, j'ai eu un accident de travail. Fait que le midi, le gouvernement cherche des surveillants de midi, je donne de mon temps pour aller surveiller les midis. Automatiquement, dans mon cas à moi, on brise 3-4 bulles.
Ouais, je comprends.
Mm-hmm. Mais, cependant, je mets l'épaule à la roue, puis je ne reçois pas mon beau-frère chez nous, malgré que ce soit le professeur de mon enfant.
Oui.
Fait que, là, je me dis, le gouvernement a le dos large, oui, il va falloir qu'il se regarde dans le miroir, puis dire, on a eu beaucoup de mois pour se préparer pour cette deuxième, éventuellement une troisième vague au mois de février, au mois de mars. Mais chaque personne, chaque compagnie devrait se voir, puis pour ne pas les nommer, les Nautilus, les Econo Fitness de ce monde, moi, je m'entraîne chez Econo Fitness. Puis, je suis allé voir le gérant, si on peut dire. J'ai dit, écoute, telle région, elle peut-tu venir chez nous? Mm-hmm. Ben oui, c'est un client. Ouais, mais son rouge à Montréal, pourquoi qu'il viendra en banlieue?
Ben oui.
C'est un client, il a le droit de venir. Mm-hmm. Fait que, quand j'entends les propriétaires de gym pleurer, mais commencez donc par de votre côté à dire, écoutez, je sais que vous avez un membership, entre guillemets, excusez mon anglicisme, de pouvoir venir dans une autre région.
Merci.
Mais restez donc chez vous.
Ouais. Merci beaucoup, Dominique. Je pense que c'est très, très clair. Jocelyn, rapidement, s'il vous plaît, on termine là-dessus. Jocelyn?
Oui. Ben, moi, je pense que la deuxième vague, c'est une vague de peur, avant tout. Le gouvernement nous l'a prouvé depuis le début. La première vague, OK, mais la deuxième vague, là, c'est basé sur des faux tests positifs.
C'est okay, ça, mais donc, vous, vous ne changez pas vos plans ce week-end. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous promener?
Aucunement. Tant que je vais être libre, moi, je vais utiliser ma liberté. Ben,
parfait.
Je sais très bien qu'ils vont nous l'enlever dans les prochains
Merci,
mois.
Ils vont
faire la loi martiale, etc.
Merci. Marc, bonjour, Marc.
Bonjour. Je trouve qu'on est dans la répétition de la pièce ultime de la solidarité humaine, là, présentement, là, parce que des virus, on va en avoir plus que ça, puis des plus violents que ça, là. Mais je pense qu'on voit la solidarité humaine, on ne pourra pas compter là-dessus. Je pense que à cause aussi de du manque de cohérence des messages qu'on reçoit, que vous avez reçu avant, là,
Mylène Drouin.
Mylène Drouin, au début de la première vague, elle disait qu'il ne voulait pas toucher aux libertés individuelles. Ça, je m'en souviens très, très bien. On voit ce que ça donne aujourd'hui.
Mais merci beaucoup, Marc. Il y avait plein de gens là, qui voulaient intervenir encore. Désolé, on vous demande donc de rester. Et puis, en deuxième heure, on va aborder d'autres choses que la COVID. Vous allez être contents. On va parler de gel des loyers potentiellement l'année prochaine. Est-ce possible? Puis aussi, on va parler un petit peu de jardin, puis de barbecue. Parce que oui, c'est un long week-end. À tout de suite, après les nouvelles.